Bien le bonsoir amis auditeurs et auditrices de Radio B. Vous avez tourné le bouton sur le 90FM et c'est un excellent choix que d'écouter Radio B en ce mardi soir 17 janvier de l'année 2023. Est-ce que ça sera la fin de l'humanité? On ne sait pas. En tout cas, on va y contribuer ce soir avec la musique que l'on va passer. J'espère bien que ça va saigner dur. Voilà, voilà, voilà. Allez, on le redit, bien bonsoir amis auditeurs et auditrices, vous êtes sur Radio B, l'émission que vous vous apprêtez à écouter jusqu'à 21h s'intitule Ultra Sonore. Voilà, voilà, voilà. Je vais donc saluer mes camarades chroniqueurs qui sont autour des micros. Allez, gentleman oblige, comme à chaque fois d'ailleurs. Salut Ange, comment tu vas?
Ça va bien et toi?
Bonne année.
Bonne année.
On se dit encore bonne année le 17 janvier ou pas?
Bah oui, c'est jusqu'au 31.
Tradition oblige, oui.
Ah Fred, t'es là,
oui,
salut, ça va?
Oui, c'est moi, en personne.
Hey, ça va?
Je te souhaite une excellente année, Fabien.
Et la santé.
Ainsi qu'à toi.
Ainsi qu'à toi aussi, la santé et d'être à l'heure pour
toi, Fab. À toi. Bon, vous l'avez compris, nous sommes bienveillants dans cette émission, n'est-ce pas? Hein, contrairement à la musique que l'on va passer ce soir.
Excessivement bienveillant.
Peut-être un peu faux cul,
non? Non. Peut-être un peu trop bienveillant même. Je pense qu'il faudrait un peu de misanthropie, ce serait...
Waouh, on est comme ça, ultra sonore.
Pour coller au thème.
Exactement, qu'est-ce que... Mais qui est cette voix autour de ce...
Mais alors
de micro. Un invité ce soir qui vient nous rejoindre autour des micros de la rue Lazare Carnot. Salut Antoine.
Salut.
Comment tu vas?
Bah très bien, merci. Merci beaucoup pour votre invitation.
Bah avec plaisir. Écoute, y a pas de souci. On est là pour pouvoir faire découvrir des groupes, faire venir des gens, des artistes, des musiciens. Enfin bref, ça vous fait beaucoup plaisir en tout cas de t'accueillir, et puis d'avoir un peu du monde aussi avec nous en tant qu'invité autour de autour des micros. Voilà. On va parler donc de tes projets, Antoine. Mm-hmm. Bon, tout d'abord, je vais inviter les auditeurs à s'installer. Boire un petit thé, une petite tisane, toi, un truc qui va avec la musique.
Bon, ouais, une petite camomille.
À reculer les enfants un petit peu.
Ou à les avancer s'ils sont passage.
Ah oui, s'ils sont passage.
Antoine, qu'est-ce que... On commence par Devour the Fetus. Donc tu joues, tu es des guitaristes dans deux groupes, hein, on va en parler tout de suite après.
Tout
mais
à fait.
Je voudrais juste poser le contexte aux auditeurs. Donc c'est pour ça qu'on va passer un morceau. Et on passe un morceau de Nabum ou un morceau de Devour?
Peut-être être sympa de commencer par un morceau de Devour.
De Devour? Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Radio B, ultra sonore. On rejoint tout de suite après Antoine, le guitariste donc, du groupe que nous nous apprêtons à entendre. Ça vous va?
Oui.
Allez, c'est impeccable. Parti. Montez le son un peu là.
We'll be right back. Ultra Sonore, le premier et troisième mardi du mois, de 20h à 21h, sur Radio B.
Davour The Foetus, c'est le groupe que l'on vient de s'écouter. Et le furieux guitariste est avec nous ce soir, autour des micros de Radio B. Donc, bonsoir Antoine, nous sommes heureux donc, de t'accueillir toujours, tu vois, depuis deux minutes. Alors, les auditeurs se sont peut-être sentis un petit peu sortir de leur confort avec l'émission précédente, qui était un peu jazz, scat, tout ça. Bon, voilà, nous, c'est Ultra Sonore, on a l'habitude de passer du gros
c'est,
son.
C'est hein, comme donc, ça, Radio B.
Chacun sa clientèle.
Là. Radio B, il y en a pour tous les goûts.
Ça colle au titre de l'émission.
Exactement, voilà, Ultra Sonore. Donc, Antoine, c'est Ange, en fait, qui t'a amené dans les studios de Radio B.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, vous êtes rencontrés quelque part dans les rues obscures de la cité burgienne.
C'est ça.
J'en sais, restons un peu ténébreux là-dessus. Hein. Donc tu officies en tant que guitariste dans deux groupes, c'est vite fait, dont aucun n'est basé ici à Bourg-en-Bresse.
Voilà, c'est ça.
Ah. Ils sont à Dijon, à Paris. Alors j'ai introduit un peu le truc. Hein. Si on prend par ordre chronologique, on a d'abord Nimbom, qui est un groupe de Dijon. Puis Devours of Fetus, puis hop, Île-de-France, que Paris.
Voilà, c'est ça.
Un groupe parisien. Alors, on t'a invité ce soir dans Ultra Sonore donc pour nous parler de ces deux groupes et d'un style de musique que les auditeurs de Radio B n'ont pas coutume d'entendre, sauf les auditeurs de Radio B qui, eux, ont les oreilles très affûtées pour appréhender ce genre de musique. Voilà. Donc, un style de musique qu'on a coutume grossièrement d'appeler death metal, mais pas que, pour le coup.
Oui, en même temps, je pense qu'effectivement, c'est... Alors, death metal, c'est un terme qui couvre finalement des types de sons assez différents, mais ça convient bien aux deux groupes. C'est vraiment... C'est la base musicale, en fait.
C'est la base musicale. Donc, il y a deux groupes. On va commencer à parler donc du... chronologiquement, donc, de Nimbom.
Ouais.
Qui... Bah, tu peux nous présenter un petit peu la biographie de ce projet, Nimbom.
Oui, alors en fait, Nimbom, c'est mon premier groupe... On l'a fondé avec des copains qui sont aussi des copains d'enfance. Ça devait être aux alentours de 2005. Donc, on avait même commencé à répéter un tout petit peu avant. J'étais guitariste depuis 3-4 ans. C'était vraiment tout frais. On était jeunes, on n'avait pas de matos. Enfin, voilà, un peu façon Wayne's World, quoi.
Bien sûr,
à répéter dans une cave avec des matos pourris. Et puis voilà, finalement, ça, alors on a eu plusieurs changements de line-up, mais c'est un projet qui a perduré, puisque moi je suis originaire de Dijon à la base, donc voilà.
Ah,
ceci explique cela.
D'accord, il y a quand même des petits liens géographiques qui viennent, s'expliquer. Donc ça c'est Nimbom, donc ta première formation.
Ouais.
Et puis arrive une nouvelle là depuis peu, Devours of Fetus.
Ouais, ça c'est beaucoup plus récent en fait, puisque j'ai rejoint Devours of Fetus il y a à peu près un an et demi. En fait, c'est Renan, le chanteur, qui m'a démarché. Voilà, il cherchait. Ils avaient eu un départ dans le groupe. Ils cherchaient un deuxième guitariste pour compléter la formation. Et puis, à ce moment-là, dans Nimbom, on avait un petit peu un creux d'activité. Et puis, c'est vrai qu'étant guitariste depuis bientôt 20 ans maintenant, je me disais que ça pouvait être intéressant finalement de faire de la musique avec d'autres personnes, puisque j'avais toujours joué. Uniquement dans Nimbom et uniquement avec des gens qui étaient aussi des copains d'enfance. Et, même si on restait sur la même base musicale, ça allait peut-être m'ouvrir aussi d'autres horizons, d'autres manières de bosser la musique, d'autres types de concerts.
Tu as toujours été guitariste ?
Ouais. Alors j'ai juste fait sur l'EP de Nimbom, le dernier, c'est moi qui ai enregistré la basse parce qu'à l'époque on n'avait pas de bassiste. Donc je m'y suis collé.
Tu t'es collé, d'accord. Toujours dans un style assez rapide comme ça. Alors moi ça me fait penser un peu à du grind, mais
ouais.
En même temps, je sais pas trop parce que au niveau de la voix, c'est pas vraiment ça le
morceaux grind. Les morceaux sont beaucoup trop longs pour être du grind. On en parlait tout à l'heure.
Oui, voilà.
Ouais, ça fait
si ça
minutes.
Dépasse 30 secondes.
Ah ouais, non, ça fait 3 minutes. Ouais.
Ça dépend des titres. Ouais. Dans Nimbom, c'est un petit peu plus long.
Les morceaux sont un peu plus longs. Et du coup, t'as toujours joué ce style de musique.
Ouais, vraiment. J'ai commencé quand j'étais ado. Je me suis dans les années 90. J'ai commencé. Tout le monde écoutait Offspring, Nirvana. Après, j'ai découvert un petit peu les groupes de heavy metal à l'ancienne, comme Iron Maiden. Et le déclic, ça a été c'était Sepultura, vraiment leur période trash, Beneath the Remains. Et voilà, j'ai découvert un son qui était à la fois rapide et sombre. Je me suis dit, ah oui, c'est ça en fait que j'ai envie d'écouter et de jouer. Et petit à petit, en fait, ça m'a beaucoup influencé au début. Et c'est vraiment la base musicale de Nabom, c'est ça, voilà, le death metal un petit peu old school entre guillemets de la fin des années 90.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc faut être assez rapide du poignet pour jouer ce style de musique.
Ouais.
Pas de tendinite.
Donc voilà, j'imagine que tu vois, tu as des contrats avec des kinés, des ostéopathes, comment ça se passe?
Non mais alors blague à part, donc j'ai soufflé mes 40 bougies l'année dernière et en fait je commence à avoir certaines douleurs des fois quand je joue,
ouais,
mais donc
ouais,
après, voilà, s'il y a des musiciens en herbe, je sais qu'à 20 ans, on s'en fout, mais faites attention à votre posture.
Ouais. Étirez-vous les poignets, chauffez-les avant de jouer.
Jouez au baby-foot, hein, sinon faites du baby-foot.
voilà. Mais respect au batteur, quand même,
ouais,
aussi.
Ouais.
Qui est champion des doubles, triples croches. C'est vraiment
voilà,
ce
ouais,
style.
C'est physique.
Donc tu dois connaître, j'imagine, Napal Death.
Ouais.
Je les ai vus en concert et j'ai toujours cette image du batteur où vraiment la rapidité et la synchro des membres, tu sais, quand ils jouent de la batterie, c'est quelque chose, c'est à voir.
Ouais.
Donc respect aux guitaristes, mais aussi aux batteurs quand même, dans ce style de musique. Hein. Alors aussi, alors tu nous as raconté donc, comment tu as été recruté dans Devours of Fetus, donc c'est le chanteur qui est venu te chercher, mais c'était quand même, il y avait des connexions déjà entre vous avant, ou il a écouté Nabom, il a dit « oh putain, lui !»
Non, oui, c'est ça en fait, il a écouté Nabom, je pense qu'il avait démarché plusieurs groupes, et puis voilà, ouais, Nabom, il a accroché, voilà, il a vu que c'était quand même un projet assez... Enfin, avec, sans me vanter, avec un niveau musical
oui,
un petit peu sérieux,
là,
quoi. C'est voilà,
là.
C'était carré. Et puis voilà, oui, il m'a contacté.
Il a fait chasseur
bon
de
moment.
Tête, comme les RH.
Il est
voilà,
peut-être RH,
dans la vie. Il est peut-être RH dans la vie, le gars. Hein. On ne sait pas.
Alors en l'occurrence, il est développeur informatique freelance, mais.
Bon bah écoute,
ouais,
voilà.
Aucun des membres des deux groupes ne vit de la musique, ou comment ça se passe?
Non, tout le monde a des boulots à côté.
Ouais.
Alors après, ça dépend. Dans Nabom, notre batteur César, lui, il joue vraiment dans beaucoup de groupes, donc. Il en tire un petit peu plus de revenus peut-être, mais de toutes les manières, on est tous, de ce point de vue-là, entre guillemets, amateurs. C'est-à-dire que...
Non, mais c'est pas amateur. C'est,
oui. Oui.
C'est juste
c'est
que...
De la ouais, c'est
ouais,
de la pratique.
Vous êtes salarié, voilà. Mais pour moi, le niveau amateur, ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Tu peux décider de ne pas en vivre et avoir un niveau professionnel.
Oui, bien
c'est
sûr.
C'est deux choses distinctes.
Oui, oui.
Sans quoi tu serais pas à l'émission si on avait vu que ça tenait pas la route musicalement.
D'ailleurs, nos batteurs ont un niveau qui est proche du niveau professionnel. Mais disons que comme c'est une musique qui reste quand même une musique de niche, relativement confidentielle, assez dure à écouter pour des néophytes. Voilà, c'est sûr.
C'est compliqué.
À part une dizaine de groupes, je veux dire, personne fait des dizaines de millions de vues sur YouTube, des dizaines de millions d'écoutes sur Spotify.
Donc voilà, être professionnel dans ce style de musique-là, c'est compliqué.
Disons qu'il faut vraiment aimer ça. Faut aimer. Oui, c'est compliqué et c'est.
Mais en termes de dates, d'avoir les cachets, le nombre de cachets Fab par an, c'est
43.
43, donc faire 43 concerts par an, c'est compliqué dans ce style de musique-là.
Oui, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Et voilà, la petite blague entre les musiciens de métal, c'est de dire bon, bah, en gros, quand tu vas à un concert, si t'as pas perdu de fric, en fait, t'es content. Donc de là à en gagner.
Ouais,
de là, tu mets au moins, ça rembourse l'essence
voilà.
Dans le camion
ça,
quand
ça.
Même.
Ça rembourse, ça rembourse.
C'est ça, t'as payé la bouffe, t'as payé l'essence, t'as payé l'hébergement.
Quoi, l'organisateur
voilà,
te paye
mal.
Même pas à bouffer?
Ouais, c'est ce que j'allais dire. La bouffe, normalement, c'est le catering, quoi. Enfin, c'est,
alors,
c'est
en termes de catering, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des fois, t'es accueilli comme un roi.
Ouais.
Et il y a des fois, je citerai pas de nom, mais le truc le plus scandaleux que j'ai vu, c'est... donc
taboulé
pas,
sans
pas de bouffe. Le mec prend une partie sur les entrées. Il se prend un pourcentage sur les entrées. Et pour les boissons, il t'offre trois tickets de... 50% de réduction sur une bière.
C'est une salle dans l'Ain ou pas?
Non, c'est pas dans l'Ain. Non, en plus, je crois que c'est un truc qui n'existe plus maintenant. Donc voilà, il n'y a pas de...
Et bah tant mieux à ce moment-là. Mais, parce que ouais. Ça ne se fait pas de ne pas respecter les artistes.
Bah, complètement, ouais. Et ça représente combien de dates, du coup, sur un an? Parce que on se rend pas forcément compte, effectivement, des concerts de métal assez... pointu comme ça, il n'y en a pas. De...
Non, il n'y en a pas tous les 4 matins.
Tu vois pas les affiches en 4x3 comme pour le Printemps de Pérouse ou les musicales du Parc des Oiseaux.
C'est vrai. C'est sûr, oui.
Mais par contre, il y a un vrai réseau, quoi. Il y a un vrai réseau très underground.
C'est ça.
Et qui va même à l'étranger, quoi.
Ouais, c'est ça, ça fonctionne.
Dans les pays,
beaucoup comme ça,
dans les pays nordiques, dans les pays de l'Est, un peu.
Ouais.
Je me rends pas du tout compte, moi, combien de dates ça peut représenter. Ça dépend, j'imagine.
C'est difficile à dire, mais pour moi, deux groupes confondus, c'est rare finalement que je fasse peut-être plus de 8-9 dates par an.
Ouais.
En fait, y a deux facteurs. Il y a effectivement le fait qu'il n'y ait pas non plus des tonnes d'événements de ce type. Alors en plus, bon, c'est presque un cliché, mais dans le métal, il y a 25 000 sous-genres.
Ouais.
Avec des fois, ça pose des contraintes pour la programmation, parce que pour les fans de métal, il faut quand même qu'il y ait une cohérence au niveau du style. Finalement, ça fait le lien avec ce qu'on disait juste avant, c'est que comme on fait ça, on va dire, comme on a tous des boulots et des vies à côté, voilà, c'est un événement, c'est un lieu qui doit trouver son public, des organisateurs qui font souvent ça, pas bénévolement, mais pas loin, enfin, tout du moins pour une partie d'entre eux. Et puis après, des musiciens qui font ça sans forcément gagner d'argent et qui doivent, en fait, tous s'accorder avec leurs contraintes personnelles, pro, familiales, tout ce que tu veux, quoi.
Donc, c'est encore plus compliqué de vivre et de faire du death metal que d'autres styles de métal. C'est des styles qui sont du coup beaucoup plus simples quand on interviewe.
Imagine, je pense que le hardcore c'est peut-être plus facile.
Ça paraît beaucoup plus facile,
plus
je pensais à ça. Ouais. Metal et hardcore, ça paraît plus simple.
C'est plus grand, toi, des groupes comme Black Bombay, je sais pas si tu connais.
Ouais.
Donc, du coup, pour eux, ils vont galérer, mais ça sera quand même plus accessible pour aller jouer et faire une tournée de 80 dates. Mm-hmm. Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, c'est important. Ouais, je pense que c'est vraiment, on est vraiment dans un marché de niche. Je sais pas pourquoi je pense au label Adipocère. Je sais pas si tu connais.
Ah oui, je connais bien sûr. Ouais.
Et qui pourtant
le label existe ultra, encore, je crois.
Il est ultra reconnu dans le milieu du métal extrême, entre guillemets, qu'on le qualifie, quoi. Je voulais revenir, moi, sur le fait que tes groupes, t'en as un à Dijon, l'autre, il est carrément à Paris. Mm-hmm. Ça complique pas un peu pour les répètes? Parce que nous, on a l'image ou la bonne vieille répète traditionnelle, tu vois, où t'es avec tes potes, tu bois de la bière, hein, et là, il y a 500 bornes.
Ouais, c'est sûr. Bah, après, ça demande... on y arrive, ça demande une organisation un petit peu serrée. Mais
des zooms.
En fait, blague à part, on utilise beaucoup tous les outils de communication. On se fait. Alors, je sais qu'avec parce que effectivement, Devour the Fetus est basé à Paris, mais il faut savoir que actuellement dans le groupe, donc il y a moi qui suis à Bourg, deux personnes qui sont à Paris, une autre qui est à Lyon et le batteur qui est à Marseille.
Lyon, Bourg, Marseille, vous pouvez covoiturer. Ouais.
C'est à côté.
Ouais, par contre, on est des bons clients de la SNCF.
Oui, attention, il y a grève jeudi. Hein.
C'est bon,
il
n'y
a pas de répète de prévu, non?
Non.
Ouais, il va pas l'annuler ou la faire en télétravail, la répète là, parce que là, ça va pas être.
Ouais. Non, mais en fait, on fonctionne beaucoup on communique par Messenger. Effectivement, on se fait des petits calls vidéo et puis on s'échange des fichiers, en fait. On travaille chacun... pas mal avec Guitar Pro. On s'envoie des partitions, on s'échange des maquettes, des échantillons, etc. Et par contre, l'avantage, c'est que comme on a une assez forte contrainte au niveau géographique et temps, les répètes, moi je me souviens des premières répètes de Nabom, c'était tu fais 30 minutes de musique, après tu sors, tu fumes 6 clopes, tu bois 4 bières, tu discutes de jeux vidéo pendant 3 quarts d'heure. Là, quand on loue un studio de répète à Paris, on bosse comme des malades pendant 3 heures d'affilée.
Pour rentabiliser,
voilà.
Mais du coup, c'est pas un peu solitaire si tu bosses tout seul chez toi avec un fichier que tes potes t'ont envoyé?
Alors,
il y a plus d'interactivité, tu vois.
Clairement, je préférerais. Pouvoir répéter plus régulièrement aussi parce que comme tu le dis, quand toutes les personnes sont présentes et quand tu joues fréquemment ensemble, en fait au niveau de l'inspiration, ça débloque d'autres trucs. Mmh. Mais bon, voilà, on est obligé de s'adapter avec nos contraintes. Et de toute façon, comme c'est une scène un petit peu resserrée, c'est très rare en fait d'avoir des groupes où les cinq membres en fait sont tous de la même ville, à part peut-être Paris, Lyon, mais comme c'est des profils un petit peu particuliers, on est dans un petit genre musical, c'est assez fréquent en fait que. Que les musiciens soient un peu éparpillés. Ouais.
Ouais, c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Il y en a qui habitent même à l'étranger et qui s'envoient des fichiers. Mais je pense que c'est une vraie contrainte au niveau de l'inspiration et de l'alchimie qui se fait en répète.
Ouais, c'est sûr qu'effectivement, il manque un petit peu. Mais après, quand t'as l'habitude, en fait, quand t'as pris l'habitude de bien bosser, de savoir comment t'y prendre pour appréhender un morceau, en fait, ça se fait. Il y a des exemples de groupes pro dans le métal où ils ont besoin d'un musicien de session. Ils le recrutent à l'étranger. Le mec, une semaine avant la tournée, il arrive. Il a bossé le set au métronome comme un malade. Il déroule et puis...
C'est vrai.
Ça se fait beaucoup, ça se fait beaucoup. Avec ton groupe parisien aussi, du coup, Devour the Fetus, comme son nom peut l'indiquer, il y a quand même une appétence pour le thème du fœtus. Là, on a travaillé le sujet, attention.
Et pour la cuisine.
Voilà. Thème du fœtus, de la fécondation, le nom du groupe, le nom de l'album, Traumatic Birth Delight, on traduit par délice de naissance traumatique.
Ouais, c'est ça, oui.
Traduction littéraire.
Ah, tu sais, quand j'ai eu fait psycho, mon premier cursus, je m'étais engueulée avec une prof qui estimait que le seul orgasme qu'une femme pouvait avoir, c'était d'accoucher.
Et voilà.
Autant te dire qu'elle est une féministe. Elle
écoutait du Despénard.
Voilà, c'était mal passé avec cette dame, nous n'étions pas d'accord.
Donc, le nom du groupe, le nom de l'album.
C'est original.
Elle t'aurait plu.
Le nom des titres. Alors, les titres, pour le coup, il y a un petit décalage humoristique, on va dire, puisqu'on a Utérale Gastronomie, Embryomelette, Placenta Tartiflette, c'est le morceau qu'on a passé juste avant d'ailleurs. Tu peux nous en dire plus sur le concept de Devour the Fœtus?
Alors en fait c'est principalement donc Renan qui écrit les paroles, mais effectivement le délire c'est d'allier un petit peu ce côté on va dire gore, kitsch, un petit peu façon film d'horreur, de série B, avec le délire gastronomie et de croiser les deux. Et, ça nous amuse. Alors, du coup, c'est des thèmes un petit peu plus légers que dans Nabom, mais en même temps, je trouve que ça colle bien au style musical, assez rentre-dedans, assez cash.
C'est ce qu'on appelle en théâtre, c'est ce qu'on appelle le grand guignol, en fait. C'était une forme de théâtre, le Grand Guignol, où il y avait, par exemple, ils sortaient des mètres et des mètres de rubans rouges pour simuler une gerbe de sang. Voilà. C'était du théâtre gore, un peu, en quelque sorte. C'est la même chose, mais avec des guitares électriques.
On peut dire ça.
Il faut voir pour jeter des rubans rouges sur scène.
C'est ça, ouais.
Faut qu'on s'équipe.
Alors, du coup, il y a un truc qui doit être un peu frustrant pour le chanteur, qui s'embête quand même à écrire des paroles qui ne sont pas toujours forcément
comprises avec
le guit. On va pas se voler la face, Antoine, qui sont pas forcément audibles.
C'est pas qu'elles sont pas forcément audibles, c'est qu'elles sont clairement pas audibles du tout.
Voilà, non, je n'osais pas dire.
Il le vit bien.
Voilà.
Ça va.
Les gens ne comprennent pas la subtilité du texte.
Il est en forme. Faut acheter le CD et puis il faut se manger le livret, quoi.
Est-ce qu'il improvise? CD avec un livret. Alléluia, ça existe encore.
Est-ce qu'il improvise du coup? S'il a un trou de mémoire,
ça peut arriver. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui. Ça fait partie du genre et je pense que. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire que du coup, on pourrait se passer de texte, mais je pense que pour les personnes qui ont envie de creuser, on a quand même envie de véhiculer un truc. Là, je parle en général dans les groupes qui pratiquent ce style de musique. Ouais. Si on regarde, si on élargit le spectre, qu'on regarde musique du monde, tout le chant, le chant ne comporte pas forcément des paroles, quoi. Ça peut très bien être des vocalises.
Mais là, en l'occurrence, il y a un texte.
Ouais.
Voilà, et il fait l'effort de dire son texte, même si on ne le comprend pas.
Et ben, il y a aussi un facteur en fait, qui fait que ouais, c'est les syllabes en fait, t'aident à te caler sur le rythme.
Ouais.
Alors que bon, si tu fais juste du yaourt, t'as pas de point de repère en fait, par rapport à la batterie, enfin, au tempo.
Donc tu peux pas faire du yaourt. Ça répond à ta question.
Ah non, mais c'était pas vraiment ça.
Après, je suis pas chanteur, mais je pense que ça aide en fait d'avoir des syllabes, carrément. D'avoir un texte pour se poser sur les musiques.
D'ailleurs, je vous propose une petite pause musicale avec Nabom cette fois. Alors le titre, Traumatic Insemination. On est toujours dans le truc qui se passe dans le ventre.
Il y a toujours un traumatisme en tout cas.
Ouais.
Donc c'est ton premier groupe, celui-ci, Nabom. On va faire une petite pause, hein, et puis on va recontextualiser, j'ai du mal ce soir avec les voyelles et les trucs, hein, t'as vu,
tu ferais un très mauvais chanteur de death metal.
Ouais, du coup là tu vois.
Ah ouais, non, mais tout à fait, ouais. Je vais mettre au rap vocodé, je pense.
Il y a peut-être plus de chance de ce côté-là.
Une ouverture de marché qui est beaucoup plus importante que le death metal.
ça, je peux pas dire le contraire.
Allez, on se fait une petite pause. On écoute Nabob, le groupe d'Antoine, guitariste qui est avec nous autour des micros de Radio B. A tout de suite. Nabob, à l'accent,
À l'instant, sur les ondes de Radio B, Nabom, voilà, et Antoine, le guitariste du groupe qui est avec nous ce soir. Ça joue quand même, hein. C'est ce qu'on disait en antenne là, pendant le morceau. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, vous, les death grindcore métalleux, là.
Après, je dirais que, alors peut-être pas en termes, peut-être pas en termes d'audience, mais le métal extrême, c'est aussi un milieu, alors ouais, un petit milieu qui est assez fermé, mais la reconnaissance, en fait, on l'attire entre guillemets de nos pairs et puis voilà du public de connaisseurs. Et c'est vrai que moi, personnellement, même si on fait une petite date dans un bar et puis qu'il y a 50 personnes, mais que voilà, t'as juste 4-5 personnes qui sont vraiment passionnées et qui te disent à la fin du concert ouais, c'était super ce que vous avez fait, ça m'a fait penser à tel groupe et tout, qui te posent des questions sur tes influences. Voilà,
c'est ouais, ça fait ta soirée, ça.
Ça me suffit, moi, en termes de valorisation.
Ouais, ouais, mais justement, le public, c'est quoi la photo du public? Parce que il y a plein de fantasmes qui tournent autour de ces musiques. Mais le public, c'est quoi? C'est du geek qui ne sort jamais de sa chambre pour autre chose que pour le concert de death metal. C'est du Par exemple, le Hellfest, qui est la grand-messe du métal sous toutes ses formes, on sait que...
Disneyland.
Ouais, c'est Disneyland du métal. On sait que le public, majoritairement, c'est des cadres, par exemple. Mm-hmm. Il y a des études qui ont été faites et ça avait été voilà, on avait
ça coûte super cher. Payer le billet, hein.
Déjà faut se payer le billet, mais en même temps je pense que c'est contrairement au punk qui est très facile d'accès, je pense, et pas que financièrement, le métal, il y a autre chose et je sais pas. Alors donc du coup ma question c'est ça, ouais, ce serait quoi la photo du public métal?
Honnêtement, c'est très très varié. C'est vrai qu'à la base le métal, si on prend vraiment le heavy metal, à la base c'est une musique, c'est vraiment une musique de prolétaire anglais, quoi. Quand on pense à l'influence d'Iron Maiden, voilà les premiers groupes comme ça, Black Sabbath. Mais c'est vrai qu'après le public c'est beaucoup diversifié et par rapport au métal extrême, je pense que effectivement comme c'est une musique qui est difficile d'accès, ça demande une certaine forme effectivement d'attention, de passion entre guillemets, de persévérance, d'investissement, qui fait que ça peut attirer effectivement un petit peu les profils geeks. Mais honnêtement, après dans les concerts, on voit de tout effectivement, des gens qui n'ont pas du tout la tête de l'emploi, mais voilà, qui sont passionnés par ce style de musique, le métalleux à l'ancienne avec le perfecto, les Rangers, la veste en jean à patch. Il y a vraiment un public hyper varié, et en plus ça peut d'une scène à l'autre. Non, je pense que c'est potentiellement, en fait, ça peut attirer tout le monde, mais le dénominateur commun, c'est que c'est des gens qui ont un rapport passionné à la musique. Moi, je le dirais comme ça. Mais il n'y a pas de photographie type, je pense, de fans de ce type de musique.
Ouais, je pense que du moment que c'est une musique qui n'est pas de masse média, effectivement, les gens que ça va attirer sur du métal, du death metal, des trucs comme ça, c'est des gens qui ont l'oreille, quoi, qui sont allés chercher, écouter des sons et qui sont passionnés de musique, effectivement.
Ouais, voilà, c'est pas un truc que t'écoutes comme ça de temps en temps en faisant la vaisselle. C'est un truc que tu.
Ce n'est pas du easy listening.
Ce n'est pas du easy listening, toi, là, c'est ça.
Bon, Antoine, c'est le moment de la question philosophique.
Je t'écoute.
Pourquoi le death metal comme moyen d'expression? Quand on te voit, on dit ce mec, il écoute du rock, quoi, mais pas forcément du métal extrême.
On m'a même fait pire. Un jour, une personne, elle m'a dit « Quoi, toi, tu joues du death metal ?» Non, mais franchement, avec ta gueule, je pensais que tu jouais de la viole de gambe.
Ah ouais.
Et
sympa.
Donc voilà, je
tu
sais
l'as
que
bien pris
j'ai vraiment pas... Ouais, ça m'a fait marrer. J'ai vraiment pas, effectivement, la tête de l'emploi. Pourquoi le death metal? En fait...
Qu'est-ce que tu y trouves?
J'aurais du mal à mettre des mots dessus. En fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à moi assez jeune. Comme je le disais, en fait, quand j'ai écouté le Bane of the Remains de Sepultura, puis d'autres choses après, quand j'ai découvert des groupes comme Nile, en fait, tu sens que le son que t'écoutes, il résonne en toi d'une manière particulière. Mmh. C'est pas un truc juste qui est agréable à écouter comme ça. Je sais pas, ça éveille en toi des sentiments. Moi, je pense que le métal extrême, c'est peut-être la seule musique qui va évoquer certaines choses comme qui, j'arrive pas à trouver le mot, qui va affronter en fait toute la noirceur qu'il peut y avoir dans nos expériences communes, dans la manière de voir la vie. C'est aussi pour ça, alors c'est un peu un cliché, mais que le thème de la mort, le thème de l'occultisme, des choses comme ça reviennent très souvent, parce que finalement, c'est des choses qui sont très très peu abordées par les autres styles musicaux, parce que c'est des choses finalement qui, dans notre quotidien, on veut pas
c'est
voir.
Tabou, ouais.
On n'a pas envie toutes les cinq minutes de penser voilà, au fait qu'on va mourir, des choses comme
Bien
ça.
Sûr.
Voilà, je
Bien
pense
sûr.
Que... je pense que ce serait ça, peut-être, la spécificité.
Ouais.
Ange, j'allais dire une connerie.
Ah bon.
J'avais proposé à Vianney de faire une chanson thématique.
Ah ouais. Oui, non.
Il faudrait qu'il travaille sa voix de...
Ça pourrait être super drôle.
Sa voix de thrasher, je ne sais plus comment on dit la voix...
Gut.
Gut.
Ouais, sa voix Gut, ouais. Pour le public là, qui nous écoute, qui découvre un peu Nabum et Deopers of Fetus, c'est une erreur si on dit que vous êtes un groupe de death metal.
Non, je pense que ça convient bien aux deux groupes, simplement. Si on veut faire des petites nuances, Devours the Fetus, ça va plus être ce qu'on va appeler le brutal death moderne, tendance slam. Et puis, Nabum, c'est plus le death metal old school, quand même assez énervé. Mais voilà, comme je le disais, nos racines, elles sont plus dans le death metal de la fin des années 90, début 2000. Des groupes un peu techniques, mais le groupe Death, Nile, Spawn of Possession,
Deathside, t'as connu ça?
Ouais, bien sûr, ouais.
C'est ouais, ça rentre.
Oui, c'est
ça. En sortant dans les cases, c'est bon.
Tout J'avais à fait, un copain au lycée qui était fan de
Morbid Angel,
tout ça là.
Cannibal Corpse,
Decide, Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu les noms des chansons, ça me fait penser à Devours the Fetus. Il y a des trucs très grand guignolesque, quoi.
Ouais, c'est un petit peu le même délire. C'est encore peut-être plus... dans Devours the Fetus, on est encore peut-être plus troisième degré par rapport à ça. Et c'est vrai que, du coup, par rapport à ce que je disais sur l'évocation, finalement, de sentiments qu'on a tendance spontanément à nier, ce serait peut-être plus la caractéristique du death metal classique par rapport au brutal death slam, où là, on est un petit peu plus en mode délire. Mais cela étant dit, au-delà des thèmes, je pense que la musique, elle évoque plus ou moins la même chose. Voilà. Elle permet d'évoquer et d'exprimer des émotions, des sentiments, des sensations qu'on a tendance à refouler, et que finalement, c'est ça qui résonne en nous quand on écoute ce type de musique.
C'est super intéressant.
Le slam, non ?
Bah non, mais
parce que nous, on connaît le slam, mais le slam, encore malade, quoi, tu vois ?
Ah, moi, je pensais à Cyril Ferraud, le jeu.
Alors oui,
sur,
c'est vrai que
France
c'est pas
3.
Le même slam.
Oui. Non, voilà. Mais je te faisais signe parce que c'était exactement ce que tu m'avais dit comme style, parce que moi, j'étais pas assez connaisseuse, donc pour moi, c'était du death metal. Il me disait, non, il y a un côté grind, et puis le chant, c'est plus du slam, etc. Je savais pas qu'il y avait tout ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais tu avais raison.
Grand Corps Malade a inventé le death metal, c'est pas possible.
Ou le death metal a inventé Grand Corps Malade.
Bravo. Allez, on va continuer à écouter Devours the Fetus. On va rester dans le domaine du culinaire, puisque cette fois on passe de la tartiflette à l'omelette. C'est embryomelette. Un embryomelette, t'as compris?
Ah oui, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je m'en lèche les babines.
Allez, on s'écoute Devours the Fetus.
Ben voilà, un petit cri qui vient du cœur, tout simplement. C'est Devours of Fetus. Le titre, c'était Embryomelette. Et Antoine, le guitariste du groupe, est avec nous autour des micros, toujours. En tout cas, c'est super intéressant de découvrir déjà deux groupes, c'est toujours sympa. Surtout quand on a un des musiciens avec nous dans le studio. Et puis aussi de parler librement d'un style de musical, un peu un marché de niche, comme on le disait tout à l'heure. Et voilà. Vous n'êtes pas trop victime du stéréotype des gars qui égorgent des poules là sur les tu sais, sur la scène comme ça se faisait dans les années 90, tu sais, sur scène.
Ouais, j'ai connu Cannibal un petit Corpse, peu cette période-là. Ouais.
Tu as des animaux qui buvaient le sang comme ça. Là,
c'était Mayhem, ça, je crois.
En live.
Enfin, peut-être un peu Mayhem, plus dans le black metal.
Ouais, peut-être. Desai faisait ça, où il se coupait et après il buvait son sang, le mec.
Ah, il y avait Marilyn Manson aussi.
Ouais, il faisait semblant.
Marilyn Manson, c'est plus du spectacle, je pense.
J'ai jamais été trop dans ce délire-là. Moi, je me focalise vraiment plus sur la musique et ce qu'elle peut véhiculer.
Le côté théâtral,
Même si le show, ça fait aussi partie d'un concert.
Bien
mais je pense que quand on en fait trop de ce côté-là, c'est peut-être qu'on n'a peut-être pas assez à offrir côté purement
fond,
musical.
Ouais.
En tout cas, moi, c'est mon opinion. Et est-ce qu'on est vraiment victime de ça? Non, pas trop, parce que, comme je le disais, on est vraiment des gars normaux dans la vie de tous les jours. Et puis, quand on apprend qu'on fait ce style de musique extrême, ça fait sourire les gens, mais c'est.
Il y a des groupes qui jouent avec l'effet de sidération aussi ces trucs-là peuvent procurer, comme quand tu regardes, je me souviens de la première fois que j'ai vu les pochettes de cassettes, c'était chez le, il y avait un bouquiniste à Bourg vers la Vizirette.
C'était Adi Posser?
Non, c'est plus vieux que ça.
J'étais pas né alors.
Encore plus vieux. Et il avait des cassettes de Napalm Death et de Cannibal Corpse je connaissais pas le groupe, mais je voyais les pochettes et c'est sidérant, quoi, de voir, tu sais, ces dessins de corps sanguinolents, etc.
Ouais, l'imagerie a un impact,
et du coup, t'as envie d'écouter ce qu'il y a sur le truc. Alors, je me souviens, il y en avait une de cassette, c'était Napalm Death, j'avais acheté la cassette, et je crois que la semaine d'après, je le revendais au gars.
pas client.
Le produit ne correspondait pas à ce que je m'étais imaginé en regardant la pochette.
Ah,
voilà.
Bon, c'est comme ça. On va laisser Antoine tranquille. On va parler d'une petite chronique ange que tu voulais faire ce soir. Sur un groupe qu'on a l'habitude aussi de passer dans l'ultrasonore, d'ailleurs, toujours un groupe français.
Un groupe français, effectivement. Donc, avec une spéciale death metal avec Antoine ce soir. Voici un groupe qu'on ne présente plus. Ce sont les patrons du métal français depuis 1989, Lophophora. Alors, moi, j'ai un petit peu dévié de la thématique, mais je suis quand même restée dans le métal. Mais j'avais envie de parler de Lophophora. C'était un petit plaisir pour moi.
Allez.
Avec 10 albums au compteur, menés par le charismatique Renaud, les Parisiens écument les scènes françaises depuis plus de 30 ans sans aucun signe de faiblesse. Leur dernier album, Vanité, est sorti en 2019 chez...
Atom ?
Atom, le label de métal en France. Et, je vous l'avoue, on peut supposer que le groupe travaillerait sur un nouvel album, car on n'entend plus trop parler d'eux ces derniers temps, ils sont un peu absents des réseaux.
Ah.
Et quand les groupes font ça, généralement, c'est que ça bosse dur. Donc on vous tiendra au courant dans quelques temps. Pour certains, on devrait polémiquer sur la meilleure période de Lophophora, avant ou après 2000. Et pour moi, elle est à partir justement de 2003, où on sent une maturité artistique et dans l'écriture du groupe. Donc, en attendant, moi je vous propose d'écouter le titre de l'album « Le fond et la forme » avec le titre « Autopilote » qui est sorti en 2003.
Dernier souffle d'air dont le goût promet d'être
chaîne qui vers le fond m'entraîne. Plus me laisser noyer dans le noir broyé. Déployer le courage, ne plus jamais vivre à moitié. Remonter les rats de marée qui poussent à relancer. Toujours avancer. Toujours avancer.
Et voilà, c'était Lofofora avec le titre Autopilote, issu de l'album Le Fond et la Forme.
Ben voilà, un petit Lofo derrière les fagots, comme ça,
bah ouais, c'est ça,
au mois de janvier, ça passe bien, non?
J'avais une envie de Lofofora en ce moment, voilà, écoute, c'est comme ça.
Voilà, c'est fait.
C'est ça.
C'est fait. L'émission va arriver à son terme tout doucement, là. Donc Antoine, guitariste de Nabom, guitariste de Devours of Fetus... Mm-hmm. Bon, vous êtes présent, j'imagine, sur la toile, si
ouais,
les gens veulent réécouter, du coup, les morceaux, des groupes, tout ça, comment ils font ?
Eh ben, les deux groupes sont sur Bandcamp, une plateforme que je recommande parce qu'elle elle reverse quand même une part importante des bénéfices aux artistes, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes. Devours of Fetus, on est aussi sur Spotify. Et puis, sinon, les deux groupes ont des comptes sur Facebook. Et puis, on est aussi sur Instagram avec Devours of Fetus.
Des dates qui vont venir se caler sur 2023 aussi, peut-être pas encore, l'agenda
alors,
est en train de se
avec
faire.
Devours of Fetus, on a deux dates, 15 et 22 avril, donc on va jouer en Suisse, à Thun, et en Allemagne, à Kessel.
Ah, une grosse scène métal
cool,
en Suisse, hein.
Ouais.
On croirait pas, mais les Suisses, sur leur petit air un peu blond, là,
Les Suisses, côté Genève, un peu.
On avait joué à l'automne, déjà, en Suisse, à Bâle, et c'était vraiment super, ouais. Super accueil, super ambiance, super public.
Est-ce qu'il y a des labels, du coup, quelqu'un qui bosse pour vous, autour des groupes? Vous n'êtes pas signé, enfin, un petit label, une petite structure do it yourself, un truc.
Non, on est autoproduit. Hein, l'EP de Nabom, on l'a enregistré nous-mêmes. Il a été mixé par un copain. Alors, on a quand même confié le master à un pro, mais la pochette, on l'a faite en grande partie nous-mêmes. On a quand même payé quelqu'un pour l'artwork. Du coup, pour Devours of Fetus, pour la sortie de l'album, j'étais pas encore dans le groupe, mais en général, effectivement, ce qu'on fait, c'est les prises batterie, on les fait en studio, et puis après les autres instruments, on les enregistre en solo, et puis après, en général, quand même, on paye quelqu'un pour un mix master, parce que voilà, ça, c'est vraiment un boulot, quoi. C'est difficile de s'improviser et puis de faire un truc bien.
Ouais, puis il faut pas déconner sur cette phase de travail là, qui est aussi importante que l'enregistrement des morceaux, ouais. Merci bien en tout cas à toi Antoine d'être venu.
Merci à vous pour
voir.
Votre invitation.
En tout cas, c'était super cool de pouvoir parler de tes groupes, de Nabom, de Devours of Fetus, et puis d'extrapoler autour de la scène métal extrême, comme disent un peu les journalistes, tu vois, dans la presse musicale. On a pu parler de tes groupes et puis de toute la scène, de tout ce qui va autour. On peut suivre donc l'actu sur les Bandcamp pour réécouter tout ça, tout comme l'émission de ce soir d'ailleurs, que vous pouvez réécouter sur radio-b.fr. L'émission Ultrasonore est également rediffusée sur les ondes Radio B, toutes les infos sur la page Ultrasonore, Radio B, etc. Voilà.
Fred, du coup, bah,
le mot de la fin,
le poids du mot de la conclusion, je sais pas comment je vais dire.
Tu veux des paillets, non?
Ouais.
Eh bien, vous voyez, je vais le dire, le mot de la fin. Je vous avoue que je suis peut-être un peu déçu parce que cette soirée est venue battre en brèche les idées que je me faisais de cette musique, des amateurs de cette musique. Parce que, honnêtement, disons-le, c'est bien connu, le métalleux, le hardos, hein, comme on l'appelle aussi, arbore, pour moi en tout cas, le métalleux, arbore des cheveux longs et gras. En concert...
Oups Antoine, oups.
En concert, il les agite frénétiquement dans une danse dite du ventilateur, ce qui lui occasionne parfois une hypertrophie de la nuque. Disons-le, le métalleux a un coup de taureau. Voilà. Hein, c'est le cas du chanteur de Cannibal Corpse.
Je pensais exactement à lui. Ouais, c'est impressionnant. On sent qu'il y a des années de pratique. Ah ouais.
c'est musclé.
Quand il ne cherche pas des camarades de jeu pour un Wall of Death, c'est que le métalleux organise un Circle Pit, qui est la variante énervée de la chenille de fin de banquet. On est tous d'accord là-dessus. C'est bien connu. C'est ça. Le métalleux connaît intimement le diable et ses acolytes. D'ailleurs le métalleux leur sacrifie toutes sortes d'animaux assez régulièrement. Enfin, le métalleux montre ses fesses dès qu'il en a l'occasion, mais si tout le monde le sait, et il chique des serviettes périodiques usagées pour se détendre, et parce qu'il trouve que ça a bon goût. Personne ne me contredira.
Tu viens de me donner une idée pour notre prochain titre. Ouais. Je te remercie. Non, mais alors, je vais casser le mythe, mais...
On est loin de tout ça.
On est des bisounours.
On est végétarien.
C'est la bonne franquette, juste.
C'est ça.
On est végane.
Ouais. On dit tout le temps, hein, les métalleux, c'est des gros
mal,
ours.
En fait, ouais.
Mais oui. Mais au sein de cette communauté toute de noir vêtue, un groupe joue la carte de la couleur. Alors, c'est pas la Compagnie Créole non plus, hein. Non pas que leur musique soit particulièrement joyeuse, juste, ils se peignent le corps en fluo. Depuis 1998 et leur premier album Furton System, les Toulousains de Punish Yourself reproduisent le même cérémonial avant chaque concert. Ils s'appliquent méthodiquement une peinture corporelle qui réagit aux lumières UV installées sur scène, faisant ainsi ressortir leur effrayant maquillage fluorescent. Alors évidemment, le maquillage a évolué depuis 1998. Sur les images d'archives qu'on peut trouver dans le DVD qui accompagnait la sortie de leur disque Gore Baby Gore en 2006, on voyait clairement l'évolution de leur show et il faut bien avouer que, bien que contraignante, la peinture corporelle reste une solution plus légère à mettre en place que leurs encombrants costumes du début qui tenaient plus de la Tortue Ninja que du groupe de rock.
Ouais, c'est vrai.
Il y avait des trucs, mon vieux, c'était...
Ah ouais, c'était volumineux, hein.
C'était
grande remorque, je pense.
Ah ouais, non mais vraiment, c'était énorme.
Ouais, c'est abusé.
Pour ce qui est de la musique, Punish Yourself navigue entre le punk, l'électro, le métal. J'ai déjà dit tout à l'heure, j'y comprends rien à toutes ces chapelles.
Des étiquettes.
Pour moi, c'est de l'indus et ça ira bien comme ça. Hein. Voilà, on va dire que c'est ça. J'ai toujours autant de mal avec ça. Au fil des albums, Punish Yourself s'est peut-être un peu éloigné des rythmiques très technoïdes du début pour aller vers quelque chose de plus rock. En témoigne le morceau Jug, issu de leur album à venir, qui fait presque penser à ce qu'ils ont pu produire sous le nom de 1969 Was Fine, qui était un projet parallèle sans maquillage qu'ils ont eu il y a quelques années. L'album sort bientôt, il y a un album là, qui est sur, ou un EP qui est sur les rails. Ce sera le 9e album studio et je crois que ce sera le premier sans Miss Z à la guitare.
Ah ouais.
Elle a arrêté le groupe parce que voilà, il était temps qu'elle arrête. Enfin voilà, elle avait envie de passer à autre chose.
Elle était prof, elle, dans la vie.
Ah ouais.
Ouais.
Ben, mais ceci dit, voilà. Hein,
ah oui.
Ce sera le premier sans elle, je crois, à moins qu'elle soit déjà absente sur le précédent. Je me souviens plus très bien. En tout cas, on va s'écouter ça tout de suite pour finir l'émission. C'est Punish Yourself, Jug dans l'ultrasonore.
Excellent choix pour terminer, Fred. Antoine, c'est le guitariste d'Unabom et de Devours of Fetus. Il était avec nous ce soir à Radio B. Merci bien, camarade, d'être passé par nos studios.
Merci à vous.
Et puis,
c'était un plaisir.
Bonne continuation à toi. À très bientôt. Fred, tout de suite.
Punish Yourself, Jug, dans l'ultrasonore. À la prochaine.
Allez, ciao, bye bye.
Ciao, bye bye. Merci, Antoine. Salut.
Merci à vous. We'll be right back.
Le premier et le troisième mardi du mois, de 20h à 21h, retrouvez votre émission musicale et culturelle Ultra Sonore. Amis auditeurs et auditrices, passez en mode défricheur et découvrez avec nous les artistes de la scène alternative.
Ultra Sonore, c'est le premier et le troisième mardi du mois à 20h sur Radio B. Et retrouvez l'émission en podcast et sur Facebook.